Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite un excellent sabbat reposant. Aujourd'hui, nous sommes à quelques jours seulement de la fête des expiations. C'est une des fêtes de l'Éternel, mais cette fête est unique parce que c'est la fête où nous devons humilier nos âmes. Nous jeûnons. Et jeûner, c'est le fait de s'abstenir de manger et de boire d'après la Bible. Nous pouvons, dans la vie, nous pouvons être humiliés et Dieu peut même choisir de nous humilier à travers les difficultés, des épreuves, mais nous pouvons aussi choisir de nous humilier nous-mêmes. Le jeûne, c'est un des outils que le Christ mentionne, en même temps que la prière, dans le sermon sur la montagne. Et aujourd'hui, bien sûr, j'ai voulu vous parler du jeûne, puisque nous allons jeûner dans quelques jours seulement. Et le titre de ce sermon, c'est « Comment profiter du jeûne ?» Je nous demande de jeûner, mais comment profiter du jeûne? Il faut être honnête. Jeûner peut être difficile, et probablement difficile pour la plupart des gens. Ce n'est pas agréable, on n'est pas forcément confortable. Quand nous jeûnons, nous avons moins d'énergie. Et pour beaucoup de personnes, donc, ce n'est pas facile, on peut avoir des maux de tête. Et si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous avons pu constater qu'il y a des jeunes qui sont meilleurs, qui ont été meilleurs que d'autres jeunes. C'est même possible de passer à côté. Il est possible de s'abstenir de manger et de boire sans que ceci nous apporte quelque chose sur le plan spirituel. Mais Dieu voit nos efforts quand nous jeûnons. Dieu voit nos motivations, Dieu voit nos attitudes, et en fonction de ceci, Dieu nous bénit ou ne nous bénit pas. Il faut être honnête, mais il faut aussi accepter la vérité, la réalité que nous trouvons dans Ésaïe chapitre 57 et le verset 15. Ésaïe chapitre 57 et le verset 15, je vais d'abord lire ceci dans le second. Ésaïe 57 et le verset 15 qui dit ceci. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Dieu est enrobé de gloire, de splendeur, de majesté. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. J'ai voulu vous lire ceci dans la version Martin, car ainsi a dit celui qui est haut et élevé, qui habite dans l'éternité et duquel le nom est le saint. J'habiterai dans le lieu haut et saint avec celui qui a le cœur, entre parenthèses, brisé, qui a le cœur brisé et qui est âme d'esprit, afin de vivifier l'esprit des âmes et afin de vivifier ceux qui ont le cœur brisé. Dieu veut que nous développions un état d'esprit d'humilité. Que nous développions cet état d'esprit d'humilité tout au long de notre vie de chrétien. Que nous ayons une attitude d'humilité, que l'humilité se voit dans notre façon de vivre, dans notre façon d'être. La Bible parle effectivement, et je cite dans Michée, de marcher humblement avec notre Dieu. Que Dieu nous a fait connaître ce qui est bien. Et une des trois choses qu'il a mentionnées dans ce Michée chapitre 6 et le verset 8, je ne m'y rapporte pas, Michée chapitre 6, verset 8, quand Dieu nous a fait connaître ce qui est bien, et une des trois choses qui est évoquée, je cite, que tu marches humblement avec ton Dieu. Tu marches humblement avec ton Dieu. Avant de commencer à jeûner, il est important de savoir pourquoi nous jeûnons. C'est très important d'avoir ceci en tête. Et en réponse à cette question, j'ai voulu vous parler de deux choses qui sont primordiales. Nous nous éloignons en tant qu'être humain, nous nous éloignons facilement de Dieu en tant qu'être humain. Nous nous laissons happer par les choses de la vie. Même l'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 7, il dit, « Moi je suis charnel, vendu au péché. » Si Paul a dit ceci, nous pouvons aussi le dire. Dans le quotidien, dans notre vie de tous les jours, il est difficile de toujours rester dans la voie étroite. Donc, la première chose que j'ai voulu souligner, première raison pour laquelle nous jeûnons, c'est tout simplement pour nous approcher de Dieu. Pour nous approcher de Dieu. Et nous avons, quand nous jeûnons, si nous jeûnons comme Dieu veut que nous jeûnions, nous avons du temps. Nous avons plus de temps pour prier, plus de temps pour étudier et plus de temps pour méditer. Dans le but de nous aider à revenir vers Dieu, à nous approcher de Dieu. Et un autre but du jeûne, ça c'est un premier but, un autre but du jeûne, c'est, comme on vient de voir, c'est de nous humilier. Nous ne mangeons pas, nous ne buvons pas, nous pouvons, à travers le jeûne, devenir plus petits à nos propres yeux. Et donc, ce sont deux clés qui sont importantes, très importantes. Le jeûne aussi nous aide à nous examiner. Nous examiner par rapport à la Bible, par rapport à ce que Dieu dit. Et c'est très clair que l'humilité et le jeûne sont liés ensemble. Du reste, nous voyons dans Psaume chapitre 35 et le verset 13. Je n'y m'y rapporte pas, je le lis seulement. Psaume chapitre 35 et le verset 13. Et moi, c'est David qui parle, et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme. Comment? J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. Nous sommes peut-être familiers avec l'enseignement de l'Église que nous avons enseigné pendant de nombreuses années, des décennies, et où nous avons parlé des 7 lois de succès. La première loi de succès pour réussir dans la vie, c'est d'avoir un but. Avoir un but pour réussir dans la vie. Et c'est ce que nous voyons aussi avec le jeûne. Nous le voyons dans Ésaïe chapitre 58 et le verset 4. Ésaïe chapitre 58 et le verset 4. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en nous. Notre but quand nous jeûnons, pour que notre voix soit entendue en nous. Ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure à propos du premier point, de nous approcher de Dieu pour que justement notre voix soit entendue en nous. En tant que chrétien converti, nous jeûnons. Le Christ a dit justement dans le sermon sur la montagne, lorsque vous jeûnez. Et quand tu jeûnes. Ce n'était pas si tu jeûnes. Bien entendu, nous pouvons demander à Dieu d'intervenir dans nos vies et nous pouvons jeûner dans certains cas, mais nous n'allons pas forcément demander l'aide de Dieu. Nous n'allons pas forcément nous trouver dans une situation où nous demandons son aide. Mais le fait de jeûner nous aide à rester dans la voie chrétienne, à rester dans le chemin étroit. Le jeûne est nécessaire pour que nous puissions avancer en tant que chrétiens. Le jeûne nous aide à avoir un bon contact avec Dieu, d'être proche de Dieu. C'est bon spirituellement et donc c'est bon pour nous. Quand nous regardons le jeûne de Daniel, nous trouvons ceci dans Daniel chapitre 9, je ne vais pas m'y rapporter, mais quand Daniel a jeûné, et c'est mentionné dans Daniel chapitre 9, nous voyons dans le verset 20, et je cite, « Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. » Donc, Daniel, effectivement, comme la Bible dit, a présenté ses supplications, mais Daniel faisait aussi autre chose. Il confessait son péché et le péché de son peuple. Et donc, nous voyons que le jeûne, ce n'est pas uniquement le fait de demander les choses à Dieu. Daniel ici a fait quelque chose de son côté. Le jeûne, c'est un bon, si nous jeûnons correctement, c'est nous pouvons effectuer un bon cheminement spirituel. Et si nous restons trop longtemps sans jeûner, notre attitude, notre comportement va s'en ressentir. Nous n'allons pas croître comme Dieu a voulu que nous croissions. Dans le livre d'Esdras, nous voyons que des Juifs, un certain nombre de Juifs, sont retournés chez eux à Jérusalem. Dans le chapitre 7, Esdras chapitre 7, nous voyons les détails des préparatifs, nous voyons une lettre que Artaxerxès, le roi, a donnée à Esdras. Et dans le chapitre 8, nous voyons ceci. Chapitre 8 et le verset 24. Chapitre 8 et le verset 24. Esdras qui dit, « Je choisis 12 chefs des sacrificateurs, Sherebia, Hachabia et 10 de leurs frères. Je pesais devant eux l'argent, l'or et les ustensiles donnés en offrande, donc c'est-à-dire une partie des préparatifs, donnés en offrande pour la maison de notre Dieu par le roi, ses conseillers et ses chefs, et pas tous ceux d'Israël qu'on avait trouvés. » Verset 26. « J'ai mis entre leurs mains 650 talents d'argent, des ustensiles d'argent pour 100 talents, 100 talents d'or, 20 coupes d'or valant 1000 darics, et 2 vases d'un bel airain poli aussi précieux que l'or. » Il y avait énormément de richesses, et ils allaient emmener cette richesse lors d'un grand voyage pour aller à Jérusalem. Puis je leur dis, « Vous êtes consacrés à l'Éternel, ces ustensiles sont des choses saintes, et cet argent et cet or sont une offrande volontaire à l'Éternel, le Dieu de vos pères. » Verset 29, ils avaient une grande responsabilité. Verset 29, « Soyez vigilants et prenez cela sous votre garde. jusqu'à ce que vous le pesiez devant les chefs des sacrificateurs et les Lévites, et devant les chefs de famille d'Israël à Jérusalem, dans les chambres de la maison de l'Éternel. Et les sacrificateurs et les Lévites reçurent au poids l'argent, l'or et les ustensiles pour les porter à Jérusalem dans la maison de notre Dieu. Et ils avaient cette responsabilité. Mais c'était beaucoup, beaucoup de richesses. La Bible parle ici de 650 talents d'argent. Et 650 talents d'argent pesaient nettement plus que 20 tonnes. Et l'or en question pesait plusieurs tonnes. Sans parler des coupes et des vases que nous venons de lire, qui étaient aussi des objets très précieux. Et Esdras et ceux qui l'accompagnaient avait un problème, parce que à l'époque, il y avait des bandits, il y avait des voleurs, c'était assez répandu dans le monde à l'époque. Et Esdras n'a pas demandé une escorte de cavaliers pour les protéger, parce qu'il avait dit au roi, je cite la deuxième partie du verset 22, « La main de notre Dieu et pour le bien sur tous ceux qui le cherchent. » Donc, il n'avait pas demandé la protection du roi, et il avait besoin pourtant de la protection, mais il a demandé la protection de Dieu. Toujours chapitre 8 et le verset 21. Verset 21, « Là, près du fleuve, donc avant le voyage, là, près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. » Le mot « implorer » est aussi traduit ailleurs dans la Bible par « chercher ». Chercher pour trouver ou avoir besoin de. Nous voyons ici donc que le dessein d'un jeune, c'est de s'humilier devant notre Dieu. Pas pour que Dieu réponde à nos fantaisies, mais c'est pour s'humilier devant Dieu, pour avoir un bon état d'esprit. Et d'être, de pas avoir des conséquences plus réceptifs à la volonté de Dieu. Quand nous avons des décisions difficiles à prendre, que nous ne savons pas où aller, quoi faire, ce qui a besoin d'être fait, le jeûne est une manière de nous aider à voir la direction de Dieu. Et Dieu, bien entendu, peut répondre de mille et une façons. Il peut nous répondre à travers sa parole. Il peut nous répondre à travers un de ses serviteurs pour nous donner un conseil. Et tout seul, nous avons besoin de l'aide de Dieu. Tous les Juifs à ce moment-là étaient très exposés et Esdras a fait preuve d'humilité et d'honnêteté. Il savait qu'il avait besoin de Dieu. Verset 23. Verset 23. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu. Le mot évoquer ici, c'est le même mot que dans le verset 21, traduit par implorer. Mais c'est le même mot en hébreu. Que nous invoquâmes notre Dieu et il nous exauça. Ce sont humiliés devant Dieu, ils ont cherché Dieu et Dieu les a exaucés. Dans Ésaïe chapitre 58, la Bible nous parle de comment jeûner de la mauvaise façon, un mauvais jeûne si vous voulez. Nous le voyons dans le verset 3 et le verset 4, et ce qui ressort de ces deux versets, c'était qu'à l'époque, les gens ne jeûnaient pas pour s'approcher de Dieu et pas pour s'humilier. Et il y avait bien sûr des mauvais fruits, des mauvais résultats. Et ils se comportaient mal avec les autres. Jeûner est un outil pour nous aider à nous rapprocher de Dieu, d'être davantage conscients de notre besoin de lui dans nos vies. Et que ce soit un exercice de véritable humilité, pas de pénitence. Ça concerne nos relations avec Dieu, mais aussi nos relations avec notre semblable. Dieu nous dit dans Ésaïe chapitre 58, verset 3 et la première partie du verset 4, ce qui constitue un mauvais jeûne. Dieu a inspiré Ésaïe d'écrire ce que nous voyons ici dans ces deux versets. J'ai voulu revenir sur le verset 3. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Voilà comment ne pas jeûner. Le rabbinat dit ceci, c'est qu'au jour de votre jeûne, vous poursuivez vos intérêts. Au jour de votre jeûne, vous poursuivez vos intérêts. Un jeûne qui est orienté vers le soi, vers nos intérêts personnels. Il est possible de jeûner uniquement en s'abstenant de nourriture et d'eau, sans que nous soyons concernés par le spirituel, sans que nous soyons concernés par notre relation avec Dieu et par notre relation avec notre prochain. Dans la deuxième partie du verset 4, nous lisons « Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour », donc avec la bonne motivation, avec ce que Dieu dit qu'il faut faire, « Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour », pour que votre voix soit entendue en nous. Pour que votre voix soit entendue en nous. Que le fait que notre voix soit entendue en nous soit une priorité. Soit une priorité. Mais comment est-ce que notre voix est entendue en nous? Nous avons la réponse dans 2 Chroniques, chapitre 7 et le verset 14. 2 Chroniques, chapitre 7 et le verset 14. Le contexte, c'est juste après la dédicace du temple de la part de Salomon. Dieu est apparu à Salomon pendant la nuit. Et nous voyons dans le verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure dans le sermon, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, dans le verset précédent, Dieu parle de fermer le ciel, d'ordonner aux sauterelles de consumer le pays et d'envoyer la peste. Et donc, s'il se détourne, toujours au milieu de verset 14, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, qu'est-ce qui se passe? Je l'exaucerai des cieux, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. C'est un cas de figure, verset 14, où la voix de son peuple, la voix d'Israël, aurait été entendue en eau. Ont été entendus par Dieu et que Dieu intervient pour pardonner et pour guérir, pour bénir le pays. Le verset 14 est un verset très riche où il est question d'invoquer le nom de Dieu, on appelle à Dieu, de s'humilier, Et nous pouvons nous humilier à travers le jeûne, de prier, on parle à Dieu, on prie Dieu, et cherche ma face, c'est une recherche auprès de Dieu. Le fait de s'approcher de Dieu, on recherche à s'approcher de Dieu. Et à la fin de verset 14, et c'est important, et si se détourne de ses mauvaises voies. C'est ce qui convient aussi de faire lorsque nous jeûnons. Pour remplacer nos mauvaises voies par les voies de Dieu, par les bonnes voies. Satan est appelé dans la Bible un destructeur. Nous voyons dans Apocalypse chapitre 9 que Satan est appelé destructeur dans le grec et destruction dans l'hébreu. Et Satan passe son temps à détruire, cherche à détruire nos relations entre nous, les relations au sein de la famille, les relations entre les frères de l'Église, cherche à créer la division, la dispute, l'animosité, la rancune. En ce qui concerne nos relations avec Dieu, Satan va, par exemple, va essayer de nous distraire avec des choses de moins d'importance. Il va essayer de nous séduire par rapport à ce qui est plus important dans notre vie. Il va essayer de faire en sorte que nous, certaines choses deviennent des dieux à la place du Dieu lui-même. 2 Timothée chapitre 2 et le verset 26. 2 Timothée chapitre 2 et le verset 26. Je saute ici au milieu d'un contexte, et que revenu à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. C'est très fort et ça montre la puissance de Satan si on laisse faire ou si on n'est pas conscient, si on est séduit. J'ai voulu vous lire ceci, le verset dans la version Ostevat. Et qui sortent de l'ivresse des pièges du diable. L'ivresse des pièges du diable qui les tient captifs et soumis à sa volonté. Et effectivement, nous pouvons être enivrés. Tellement pris par quelque chose dans notre vie de tous les jours que nous sommes, pour ainsi dire, enivrés. Que cela altère nos priorités et que cela détruit nos bonnes relations avec Dieu. J'ai voulu vous lire quelque chose ici à ce sujet en provenance de lettre de provenance de Monsieur Franks qui nous a adressé. Il a dit ceci. Satan est appelé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon, mot qui signifie le destructeur et il séduit toute la terre. Il cite Apocalypse 9, 11 et Apocalypse 12, 9. Dieu nous avertit de nous détacher de ce monde et de ne pas prendre part à ses péchés. Apocalypse 18, 4, 2 Corinthiens 6, verset 17. Christ, dans son schéma de prière, nous dit de prier quotidiennement le Père de nous délivrer du malade. Matthieu 6. Que peut faire un être humain face à cet être spirituel, puissant et méchant? Que peut faire un être humain face à cet être spirituel, puissant et méchant? Dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, c'est la culture que j'ai lue tout à l'heure, se trouve la seule solution pour vaincre le mal. Elle fut énoncée peu après la dédicace du temple construit par Salomon, et il cite l'écriture, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. le repentir et un changement de cœur et d'attitude qui peuvent saper les efforts de Satan à détruire. Et puis, M. Franks ajoute, mais de nos jours, on a du mal à imaginer qu'une nation entière se détourne de ses péchés. C'est d'autant plus vrai avec les événements récents que nous avons vus. Avant, nous suivions le Dieu de ce monde. Le monde est retenu captif, et nous avec. Et avec notre conversion, Dieu est devenu notre Dieu. Avant, nous étions influencés par Satan, par le monde. Dieu est devenu notre Dieu. Et lorsque nous jeûnons, cela devient beaucoup plus clair. Nous voyons où le péché nous guette. Nous voyons où le péché nous influence dans notre vie. Et nous pouvons réfléchir à l'emprise de Satan sur nous-mêmes. Et nous pouvons nous repentir. Dieu nous accorde le don du repentir. Et la vie chrétienne est caractérisée par le jeûne et par l'humilité. En jeûnant, nous nous approchons de Dieu et en même temps, Satan s'éloigne de nous. C'est ce que nous voyons dans Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4 est le verset 6. Je suis de nouveau au milieu d'un contexte. Jacques chapitre 4 est le verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Et nous voulons tous bénéficier de la grâce de Dieu. Et la Bible nous donne le moyen. C'est une vérité fondamentale. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 7. Soumettez-vous donc, pour voir des conséquences, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Quand nous nous soumettons à ce que Dieu dit, et le jeûne va nous aider à résister. Le jeûne va nous aider à nous réorienter vers Dieu. Quand Satan s'éloigne de notre vie, c'est une très grande bénédiction. C'est que nous sommes sur le bon chemin. Nous sommes sur la route qui nous mène vers la perfection. Et quelle paix d'esprit nous pouvons avoir. Verset 8. Approchez-vous de Dieu. C'est ce que nous faisons quand nous jeûnons, comme Dieu veut que nous jeûnions. Nous nous approchons de Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Nous allons revenir à Ésaïe chapitre 58. Ésaïe chapitre 58, qui est un chapitre très riche en enseignement, qui nous montre comment profiter d'un bon jeûne, comment porter de bons fruits. Ésaïe chapitre 58, donc le verset 6 et le verset 7 aussi, où il est question de s'éloigner de la méchanceté, mais aussi de bien agir avec notre semblable, avec notre prochain. Verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Il y a un changement dans nos vies. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Et ensuite, dans le verset 7, il parle de donner. Donner à l'autre. Donner à autrui. Donner à celui qui a un besoin. Verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Le jeûne, c'est notre approchement de Dieu, mais aussi on se rapproche de notre semblable, de celui qui est dans le besoin. Et si nous agissons de cette façon, nous avons l'intervention de Dieu. Verset 8, c'est marqué « alors » à ce moment-là, si nous mettons en pratique ce qui est dans le verset 6 et le verset 7. Verset 8, « alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison gèmera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. » On sera plus proche de Dieu. Dieu sera plus présent dans notre vie. Et le jeûne avec la motivation de se repentir et de changer, c'est aussi important. Le jeûne avec la motivation de se repentir et de changer est agréable à Dieu. Parce que Ésaïe 58, justement, décrit admirablement les bénédictions que Dieu veut donner à ceux qui jeûnent selon ses enseignements, selon les critères de Dieu. Ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure dans le sermon. Premièrement, de savoir pourquoi nous jeûnons. Premièrement, pour s'approcher de Dieu. Et deuxièmement, pour nous humilier. De rompre le joug que nous avons peut-être imposé à d'autres sans s'en rendre compte. De détacher les chaînes de la méchanceté que nous n'avons peut-être pas vues avant. De voir plus clairement l'influence du péché dans notre vie. Et nous voyons à quel point nous pouvons profiter de ce genre de jeûne, comme nous venons de lire dans le verset 8. Le spirituel, c'est plus important que le physique. Verset 9. Il y a de nouveau un alors. Alors, donc deuxième alors. Alors, tu appelleras. Et l'Éternel répondra. Il y a cette proximité de Dieu. On est plus proche de Dieu. On s'est rapproché de Dieu. On a su pourquoi on a jeûné et on a réussi à s'approcher de Dieu. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Il y a cette proximité. Tu crieras et il dira, me voici. Le rabbinat dit, tu supplieras et il dira, me voici. Ça concerne donc notre relation avec Dieu. Mais le fait de jeûner concerne aussi notre relation avec notre prochain, avec notre semblable. Nous venons de le voir dans le verset 6 et le verset 7. Et ici, la deuxième partie du verset 9. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, le geste menaçant et les discours injurieux. Dans ces versets, il est beaucoup question de s'éloigner de ce qui est mauvais, de ce qui détruit. Verset 10, qui parle de la voix de Dieu. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'arbre indigente. De nouveau, donc, il est question de donner à celui qui a faim. C'est la deuxième fois dans ces quelques versets que la Bible parle de donner à celui qui a faim. Verset 7, nous l'avons déjà vu. La voie de donner consiste à avoir une bonne attitude vis-à-vis des autres, d'être plus réceptif aux autres et à leurs besoins, et c'est la voie de penser à notre prochain, à ses besoins. C'est donc concret, et ça c'est la deuxième chose qui est énumérée ici, c'est notre relation avec notre prochain. Et de nouveau, nous avons des bénédictions de la part de Dieu à la fin du verset 10. Si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. La lumière va éclairer notre vie, va nous montrer le chemin qu'il faut prendre, les décisions qui sont des bonnes décisions. Ça, c'est donc, il y a deux « si » dans le verset 10. Si tu donnes ta propre existence, si tu rassasies l'âme indigente, il y a une bénédiction ou des bénédictions. Et le verset 11, ces bénédictions continuent. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Beaucoup de bénédictions de la part de Dieu, tout ça pas précédé par des « si », deux fois « si » dans le verset 10, et c'est marqué « L'Éternel sera toujours ton guide ». Il y aura un contact continuel avec Dieu. Nous serons, pour ainsi dire, arrosés par Dieu, et nous serons à notre tour une source. J'ai voulu vous parler d'un homme, un homme de Dieu, un roi de Juda, qui était un homme juste. Son père avant lui était juste aussi. Bon, il n'était pas parfait, c'est ça que j'ai voulu faire ressortir dans cet exemple, mais il a jeûné à un moment donné, et Dieu est intervenu d'une façon puissante. L'histoire se trouve dans 2 Chroniques, chapitre 17, et nous allons commencer à lire à partir de verset 3. 2 Chroniques, chapitre 17, et le verset 3. C'est un récit qui est très élogieux. Le roi en question, c'était Josaphat, roi de Juda. Verset 3. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David son père et qu'il ne rechercha point les Baals, au contraire, il cherchait Dieu, car il eut recours au Dieu de son père et il suivait les commandements sans imiter ce qui faisait Israël. L'Éternel affermit la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda portait des présents et qui eut en abondance des richesses et de la gloire. Il y avait ici cause et effet. Il a suivi la voie de Dieu. Dieu l'a beaucoup béni. C'était très encourageant, cette façon de commencer son règne. Ça a très bien commencé. Mais nous voyons dans 2 Chroniques, chapitre 18, déjà avec le verset 1, qu'il n'a pas fait un bon choix. Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire et s'allia par mariage avec Achab. C'était pas un bon choix. Et au bout de quelques années, il descendait auprès d'Achab à Samarie, et Achab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis et de bœufs. Et il le sollicita de monter à Ramath en Galaad. Josaphat a pris une mauvaise décision. Tout comme nous, même le peuple de Dieu, nous pouvons prendre de mauvaises décisions. 2 Chroniques 18 toujours, verset 4. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Et Achab, qui n'était pas un homme de Dieu, loin s'en faut, a fait appel à ses 400 prophètes qui disaient qu'il fallait qu'il monte, qu'il aura la victoire. Et finalement, sous l'insistance de Josaphat, il y a Miché, un prophète de l'Éternel, qui est venu et qui a prophétisé ce qui allait se passer en réalité avec la mort d'Achab, le roi d'Israël. Verset 25. Évidemment, Achab n'est pas heureux. Verset 25, il fait enfermer Miché. Verset 25, le roi d'Israël dit, « Prenez Miché et emmenez-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Vous direz, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. » Et Michée dit, « Si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. » Il dit encore, « Vous tous, peuple, entendez. » Et effectivement, Achab était sévèrement blessé dans la bataille. Verset 33, « Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, « Tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. » Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi d'Israël fut retenu dans son char en face des Syriens jusqu'au soir, et il mourut vers le coucher du soleil. Nous voyons aussi les conséquences. Nous voyons ce que Dieu a pensé de ce comportement de Josaphat qui allait avec un homme qui était méchant. Chapitre 19 et le verset 1. Josaphat, roi de Juda, Dieu a protégé Josaphat. Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Jéhu, fils de Hanani, le prophète, alla au-devant de lui et dit au roi Josaphat, « Doit-on secourir le méchant, mais aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi, mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. » Et c'est intéressant parce que Josaphat a très très bien commencé sa vie de roi. Et Josaphat a même continué dans la voie de Dieu après. Mais il a fait une erreur et comme c'est marqué, l'Éternel est irrité contre toi. Verset 4, toujours chapitre 19 et le verset 4, Josaphat resta à Jérusalem, puis fit encore une tournée parmi le peuple, depuis Beersheba, dans le sud, jusqu'à la montagne d'Éphraïm, et les ramena à l'Éternel, le Dieu de leur père. Il a continué à faire du bien. Il a continué dans la voie de Dieu. Et tout comme Josaphat, nous faisons de bonnes choses dans nos vies en tant que chrétiens, mais nous commettons aussi des erreurs. Nous réussissons, et parfois, à d'autres moments, nous échouons. Et Dieu nous donne son esprit pour que nous puissions justement réussir. Nous venons de voir que Josaphat n'était pas parfait, que Josaphat a pris une mauvaise décision. Mais regardons 2 Chroniques, chapitre 20, la suite de sa vie. 2 Chroniques, chapitre 20, et le verset 1. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux, les Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, « Une multitude nombreuse s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Atsatson Tamar, qui est en Guédi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Juda. Nous voyons de nouveau cette conception de rechercher Dieu, de chercher Dieu dans le contexte d'un jeûne. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Ils savaient pourquoi ils jeûnaient. Ils avaient ce but fermement en tête. Josaphat a exposé et a détaillé la situation devant Dieu. Il a prié Dieu. Je ne vais pas lire toute son intervention. Vous pouvez le regarder à la maison. On arrive au verset 12, à la fin de son intervention, son discours. Verset 12. Ô notre Dieu, ayant exposé la situation à Dieu, ô notre Dieu, n'exerces-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes, et là il était donc réaliste, honnête, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Nous aussi, nous connaissons des situations où nous ne savons que faire. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Il a reconnu son impuissance, mais il s'est tourné vers Dieu. Nos yeux sont sur toi. Il a demandé l'aide de Dieu en jeûnant, en se tournant vers Dieu, en s'humiliant. Si vous regardez tout le récit, vous verrez qu'il y a un Lévite qui a pris la parole et Josaphat et le peuple ont écouté cet homme de Dieu. Nous voyons la suite des événements, le verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche du grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. » Il a gardé la foi, il avait la foi, il a continué à avoir la foi. « Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, et on voit donc qu'il y a ces deux choses vont de pair, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, les ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir, pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Ils n'avaient plus d'ennemis. Dieu a résolu le problème. Et Dieu peut balayer tous nos soucis. Il peut enlever des difficultés dans nos vies à tout moment, quand nous nous approchons de lui. C'est ce que Josaphat a fait. Et Dieu est intervenu parce qu'il s'est humilié, parce qu'il recherchait Dieu. On redoute de jeûner. C'est vrai que cela peut ne pas être facile et peut même être difficile. Mais si nous voulons que Dieu intervienne pour nous aider, il faut jeûner à la façon de Dieu. Nous avons besoin aussi que Dieu nous ouvre des portes dans notre vie. Nous pouvons supplier Dieu. Et c'est toujours bénéfique de jeûner. C'est toujours bénéfique de jeûner à la façon de Dieu. Premièrement, pour s'approcher de Dieu. Et deuxièmement, pour nous humilier devant lui. Je vous souhaite à vous tous une très bonne fête des expiations et une très bonne fête des tabernacles.